12e. Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Et cette découverte archéologique incroyable en Égypte.
Dans un quartier populaire de la capitale, une immense statue de plus de 8 mètres de haut et vieille de 3000 ans a été sortie de terre du sol. Il s'agit d'un buste d'un pharaon et le lieu de la découverte donne des informations sur cette œuvre. Le quartier de Mataria est situé sur l'ancienne cité d'Héliopolis. Reportage de François Hume Ferkataji.
Le déplacement du buste de 9 tonnes et d'un morceau de tête du quartier informel de Mataria jusqu'au musée égyptien au centre-ville a bloqué la circulation du Caire une bonne partie de la matinée. Quelques heures plus tard, la mission d'archéologues égyptiens et allemands présentait leur découverte à une centaine de journalistes, ministres ou ambassadeurs. Dr Tarek Taoufik, directeur du futur grand musée égyptien où la statue sera prochainement exposée.
La statue représente très probablement le roi Psamtik Ier de la 26e dynastie. C'est une découverte majeure parce que nous n'avons aucune autre statue colossale de ce roi ou de cette dynastie. Donc, c'est un grand événement.
L'égyptologue Dietrich Rau est à l'origine de la découverte. Il raconte cette journée mémorable avec émotion.
C'était un jour assez banal en fait. On travaillait sur le site quand tout à coup, un des gars de l'équipe a dit « Oh, il y a quelque chose de très gros là. » Bon, je ne savais pas ce que c'était, peut-être des ordures ou quelque chose comme ça, mais non, c'était vraiment trop gros. Et c'est là qu'on a compris qu'on creusait en fait juste sur le buste d'un roi.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Et cette découverte archéologique incroyable en Égypte.
Dans un quartier populaire de la capitale, une immense statue de plus de 8 mètres de haut et vieille de 3000 ans a été sortie de terre du sol. Il s'agit d'un buste d'un pharaon et le lieu de la découverte donne des informations sur cette œuvre. Le quartier de Mataria est situé sur l'ancienne cité d'Héliopolis. Reportage de François Hume Ferkataji.
Le déplacement du buste de 9 tonnes et d'un morceau de tête du quartier informel de Mataria jusqu'au musée égyptien au centre-ville a bloqué la circulation du Caire une bonne partie de la matinée. Quelques heures plus tard, la mission d'archéologues égyptiens et allemands présentait leur découverte à une centaine de journalistes, ministres ou ambassadeurs. Dr Tarek Taoufik, directeur du futur grand musée égyptien où la statue sera prochainement exposée.
La statue représente très probablement le roi Psamtik Ier de la 26e dynastie. C'est une découverte majeure parce que nous n'avons aucune autre statue colossale de ce roi ou de cette dynastie. Donc, c'est un grand événement.
L'égyptologue Dietrich Rao est à l'origine de la découverte. Il raconte cette journée mémorable avec émotion.
C'était un jour assez banal en fait. On travaillait sur le site quand tout à coup, un des gars de l'équipe a dit « Oh, il y a quelque chose de très gros là ». Bon, je ne savais pas ce que c'était, peut-être des ordures ou quelque chose comme ça, mais non, c'était vraiment trop gros. Et c'est là qu'on a compris qu'on creusait en fait juste sur le buste d'un roi.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Cette fois-ci, comme on est tout début mai, on va parler de quelque chose qui a lieu chaque année au mois de mai et que les Français apprécient. Les ponts.
Les ponts, c'est le même mot que les ponts au-dessus des rivières, ceux qui permettent à une route de franchir une rivière. Mais pour les ponts du mois de mai, il ne s'agit pas de ça. Ces ponts-là, ce sont des jours de congé que beaucoup de Français prennent en mai.
C'est parce qu'en mai, il y a toujours plusieurs jours fériés. Et souvent, il suffit de poser un ou deux jours de congé pour relier ce jour férié au week-end le plus proche. On dit alors qu'on fait le pont. Si vous venez en France à cette période, vous entendrez sûrement parler de ces ponts. On a aussi d'autres ponts pendant l'année, à l'occasion des autres jours fériés, quand ils tombent en semaine. C'est-à-dire un autre jour que le week-end.
Par exemple, il peut y avoir le pont du 14 juillet. Le pont du 15 août ou le pont du 11 novembre. À chaque fois, ça correspond à un long week-end qui comprend un jour férié.
Au mois de mai, on peut avoir jusqu'à 4 jours fériés. Pour commencer, le 1er mai est férié. Puis une semaine après, c'est le 8 mai qui est férié. Ça fait déjà 2 jours fériés fixes qui tombent toujours en mai. En plus de ça, le jeudi de l'Ascension est férié en France. Et comme c'est toujours un jeudi, on peut faire le pont de l'Ascension si on ne travaille pas le vendredi. Ça marche chaque année.
Et le quatrième jour férié, c'est quoi ?
C'est le lundi de Pentecôte. c'est toujours un lundi, donc ça fait toujours un week-end de 3 jours. Samedi, dimanche, lundi. Mais ce n'est pas toujours en mai. Parfois, ça tombe en juin. Ce n'est pas la même date chaque année. On dit que c'est un jour férié mobile.
Selon les années, les jours fériés de mai tombent plus ou moins bien. Parfois, le 1er et le 8 mai tombent un dimanche, un jour où on ne travaille pas. Ça ne nous offre pas de jours de congé en plus.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Cette fois-ci, comme on est tout début mai, on va parler de quelque chose qui a lieu chaque année au mois de mai et que les Français apprécient. Les ponts.
Les ponts, c'est le même mot que les ponts au-dessus des rivières, ceux qui permettent à une route de franchir une rivière. Mais pour les ponts du mois de mai, il ne s'agit pas de ça. Ces ponts-là, ce sont des jours de congé que beaucoup de Français prennent en mai.
C'est parce qu'en mai, il y a toujours plusieurs jours fériés. Et souvent, il suffit de poser 1 ou 2 jours de congé pour relier ce jour férié au week-end le plus proche. On dit alors qu'on fait le pont. Si vous venez en France à cette période, vous entendrez sûrement parler de ces ponts. On a aussi d'autres ponts pendant l'année, à l'occasion des autres jours fériés, quand ils tombent en semaine. C'est-à-dire un autre jour que le week-end.
Par exemple, il peut y avoir le pont du 14 juillet. Le pont du 15 août ou le pont du 11 novembre. À chaque fois, ça correspond à un long week-end qui comprend un jour férié.
Au mois de mai, on peut avoir jusqu'à 4 jours fériés. Pour commencer, le 1er mai est férié. Puis une semaine après, c'est le 8 mai qui est férié. Ça fait déjà 2 jours fériés fixes qui tombent toujours en mai. En plus de ça, le jeudi de l'Ascension est férié en France. Et comme c'est toujours un jeudi, on peut faire le pont de l'Ascension si on ne travaille pas le vendredi. Ça marche chaque année.
Et le 4e jour férié, c'est quoi ?
C'est le lundi de Pentecôte. C'est toujours un lundi, donc ça fait toujours un week-end de 3 jours. Samedi, dimanche, lundi. Mais ce n'est pas toujours en mai. Parfois ça tombe en juin. Ce n'est pas la même date chaque année. On dit que c'est un jour férié mobile.
Selon les années, les jours fériés de mai tombent plus ou moins bien. Parfois, le 1er et le 8 mai tombent un dimanche, un jour où on ne travaille pas. Ça ne nous offre pas de jours de congé en plus.
Vous avez 1 minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez 1 minute à votre disposition. prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Docteur Fabien Cohen, déjà, à partir de quel âge on commence à brosser les dents d'un enfant ?
J'aurais tendance à dire, comme d'ailleurs tous mes collègues, qu'on se brosse les dents dès qu'on a des dents. Alors après, il y a manière et manière de se brosser les dents. Ouais. C'est-à-dire à partir de 6 mois, 1 an, on a des premières dents et on peut commencer à brosser les dents. Alors on les brosse ou tout simplement on les frotte. Ouais. On les frotte avec n'importe quel possibilité, ça peut être un petit chiffon, ça peut être une brosse, ça peut être un bout de bois, les bois à nettoyer les dents. L'essentiel étant, c'est de éliminer la plaque dentaire. Parce que qu'on comprenne bien, quel que soit l'âge, dans la bouche se forme en permanence une plaque dentaire. C'est-à-dire, c'est quoi la plaque dentaire ? C'est la salive, c'est l'alimentation, c'est la désquamation, c'est-à-dire la perte de peau régulière, hein, c'est pour ça qu'on se lave tous les jours aussi, hein, c'est pour éliminer cette peau qui devrait s'éliminer toute seule, mais qui ne s'élimine pas toute seule. Et puis, il y a aussi des microbes. Et l'ensemble, surtout avec, dans l'alimentation, les sucres, donne une composition qui va se transformer au bout de 12 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, les microbes emprisonnés dans cette plaque vont sortir de leur rôle habituel dans la bouche pour donner finalement des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui entraînent... Alors, les microbes pathogènes chez un enfant, pour l'essentiel, c'est la carie. La carie, ça veut dire quoi ? Ce sont des acides formés à partir du sucre. Les microbes vont découper le sucre, mais avant de les découper, qui est la deuxième fonction, ils vont d'abord former une colle. Cette colle va se mettre sur la dent, et pas que sur la dent, sur les gencives, partout dans la bouche, mais sur la dent. Et donc, quand on a dépassé les 12 heures, pour enlever la plaque dentaire, ça devient plus difficile. D'où l'importance de ne pas dépasser les 12 heures et de bien le faire deux fois par jour.
Vous avez 2 minutes avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Docteur Fabien Cohen, déjà, à partir de quel âge on commence à brosser les dents d'un enfant ?
J'aurais tendance à dire, comme d'ailleurs tous mes collègues, qu'on se brosse les dents dès qu'on a des dents. Alors après, il y a manière et manière de se brosser les dents. Ouais. C'est-à-dire, à partir de 6 mois, 1 an, on a des premières dents et on peut commencer à brosser les dents. Alors, on les brosse ou tout simplement on les frotte. On les frotte avec n'importe quel possibilité. Ça peut être un petit chiffon, ça peut être une brosse, ça peut être un bout de bois, les bois à nettoyer les dents. L'essentiel étant, c'est de éliminer la plaque dentaire. Parce que qu'on comprenne bien, quel que soit l'âge, dans la bouche se forme en permanence une plaque dentaire. C'est-à-dire, c'est quoi la plaque dentaire? Bah, c'est la salive, c'est l'alimentation, c'est la désquamation, c'est-à-dire la perte de peau régulière, hein, c'est pour ça qu'on se lave tous les jours aussi, hein, c'est pour éliminer cette peau qui devrait s'éliminer toute seule, mais qui ne s'élimine pas toute seule. Et puis, il y a aussi des microbes. Et l'ensemble, surtout avec, dans l'alimentation, les sucres, donne une composition qui va se transformer au bout de 12 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, les microbes emprisonnés dans cette plaque vont sortir de leur rôle habituel dans la bouche pour donner finalement des microbes pathogènes, c'est-à-dire qui entraînent... Alors, les microbes pathogènes chez un enfant, pour l'essentiel, c'est la carie. La carie, ça veut dire quoi? Ce sont des acides formés à partir du sucre. Les microbes vont découper le sucre, mais avant de les découper, qui est la deuxième fonction, ils vont d'abord former une colle. Cette colle va se mettre sur la dent, et pas que sur la dent, sur les gencives, partout dans la bouche, mais sur la dent. Et donc, quand on a dépassé les 12 heures, pour enlever la plaque dentaire, ça devient plus difficile. D'où l'importance de ne pas dépasser les 12 heures et de bien le faire deux fois par jour.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.